Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, autour d'une œuvre racontant une époque de sortie de crise où un homme rêve de posséder le plus immédiatement et d'être reconnu. Mais là où il rêve d'ascension, l'opéra va raconter une chute. The Rex Progress, c'est le titre de l'opéra d'Igor Stravinsky qui sera donné à l'Opéra de Rennes du 3 au 9 mars, repris à Nantes du 22 au 30 mars dans votre mise en scène, Mathieu Boer. Bonjour.
Bonjour.
Quelle proximité avez-vous avec cette carrière d'un libertin, sous-titre de cet opéra, vous qui venez du théâtre et qui aimez ces relations théâtre-musique? Quelle proximité avez-vous avec l'œuvre de Stravinsky?
Je préfère avec l'œuvre de Stravinsky, parce que c'était un peu litigieux. Évidemment, la question.
C'était volontairement litigieux.
Proximité avec ce libertin. Déjà c'est un cadeau absolument immense, c'est ma première mise en scène d'opéra. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur théâtre et musique, mais à des endroits qui sont très très différents, puisque c'est plutôt de la musique improvisée, et puis c'est plutôt des textes ou des montages à partir d'essais et théâtre. Là il y a un livret, il y a un absolument magnifique, d'Oden, enfin un très très joueur j'ai envie de dire, et puis il y a une musique absolument exceptionnelle, celle de Stravinsky. Ça lui a été, il y a eu une petite polémique autour de l'œuvre puisque c'était comme ça une sorte de plagiat, il a été accusé de plagiat par rapport à des opéras plus classiques type mozartien, etc.
Mais évidemment, on peut s'empêcher de penser à Don Juan avec cette carrière, notamment.
Oui, mais par exemple, si on prend la figure de Don Juan et celle de Tom Rockwell, elles sont diamétralement opposées, elles ne sont pas du tout au même endroit. Je trouve que le Tom Rockwell s'inscrit dans une époque, les années 50, puisque ça a été écrit dans les années 50, qui comme ça draine la fin, ou le début d'une nouvelle époque, d'une certaine façon. On va se certainement en parler, mais c'est vrai que c'est la fin d'un certain nombre d'illusions, celles qui ont été les grandes étupies du début du siècle, avec tous les malheurs que cela a pu engendrer. On est en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a une société qui est en train de se mettre en place, qui est celle qu'on connaît maintenant, qui est vraiment en place et qui est une sorte de nihilisme comme ça, qui l'emporte sur son passage. Je pense que le Tom Rockwell correspond un tout petit peu à cette époque. J'ai beaucoup pensé à la Dolce Vita, je ne sais pas pourquoi, de Fellini, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'illusion, du factuel, où évidemment on essaye de répondre à ses désirs de façon très compulsive, immédiate, sans réfléchir, très individualiste, comme ça.
Ça c'est vraiment l'opéra de l'avoir et pas de l'être.
Hein. Oui, exactement. Posséder. Après, ils sont très joueurs, c'est-à-dire que ça manque pas d'humour, de mordant. Ils croquent des personnages qui sont assez caricaturaux, faut bien le dire. Ils n'hésitent pas. Donc il y a à la fois il y a quelque chose de très comique, de l'ordre de la farce, et puis quelque chose de plus mélancolique. Mélancolique, je dirais, plutôt que de grave ou dramatique, mais il y a une vraie mélancolie. Et tout ça est apporté aussi par le personnage féminin qui est absolument délicieux, surtout dans cette pièce. J'adore, vraiment, il est formidable. Bref, je peux le dire, je le chuchote. Oui. Voilà. Non, mais qui était délicat pour moi, je ne savais pas comment le traiter. Oui, c'était la petite chose sur laquelle je me disais, c'est plus compliqué, cette espèce de...
Donc c'est la femme qui est amoureuse de cet homme.
Totalement amoureuse, qui est amoureuse de l'amour, que les choses soient claires. Je ne suis pas sûr que ça pourrait être n'importe quel autre. Enfin, voilà, qui idéalise comme ça cet amour, mais finalement qui va réussir à déployer pendant tout l'opéra effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la tendresse, on va dire, ou de l'écoute, et qui va accorder comme ça cette rédemption un peu étrange à ce personnage qui se sera perdu dans les méandres de nos sociétés.
Dans les lieux de débauche aussi, puisque c'est ça que raconte, est-ce que c'est ça aussi?
Oui, c'est la marchandisation.
Puis le côté joueur aussi pour vous, pour la mise en scène, Mathieu Boer, d'avoir à mettre en scène ces lieux de débauche et cet itinéraire de la débauche.
C'est plutôt les tableaux, il y a une multitude de tableaux, c'est-à-dire que là, c'est vrai que Stravinsky et Oden s'amusent, donc on voit qu'ils empruntent à plein de genres. Moi, je pense que la comédie musicale n'est pas si éloignée de ça. Après, sur la débauche, oui, c'est toujours comment on donne les signes de la débauche, c'est toujours très, très compliqué. Moi, je suis plutôt parti sur l'idée de la marchandisation des corps aussi, au même titre qu'on marchandise tout actuellement, c'est-à-dire même chez Babalature, qui est une chose qui est assez formidable, elle a des objets qui ont vraiment une valeur symbolique, mais qui sont des objets de pacotille, enfin des souvenirs, etc. Et puis tout d'un coup, on va leur donner une valeur marchande. Donc c'est vrai que c'est passé comme ça au prisme un peu de la marchandisation des corps, des objets, des désirs, de nos émotions et tout ça. Il y a ça, et puis il y a cette folie latente de ce monde qui est en train de...
La folie là aussi dans tous les sens du terme, puisque certains personnages sombrent dans la folie.
C'est ce qui est réservé, c'est le sort qui va être réservé à notre ami Tom Rockwell. Eh oui. Mais en même temps, cette folie-là, elle ramène aussi à une certaine façon, une forme de mélancolie, c'est-à-dire cette capacité à un moment donné, quand on ne comprend plus le monde, de s'en extraire totalement et d'aller effectivement dans la mythologie, d'aller dans, voilà, explorer d'autres territoires qui échappent un tout petit peu à la cruauté qui est en cours, hein, j'ai envie de dire.
Ouais. Alors, ce que vous venez de dire, Mathieu
Boer... C'est une folie, en fait, c'est une folie assez douce, assez calme chez moi, assez... comment dire, elle a accepté cette folie-là.
Moi, voilà, vous avez devancé ma question d'après, qui allait justement être Mathieu Boer. Ce que vous venez de dire, finalement, ce sont des sentiments extrêmes. Quelqu'un qui est amoureux de l'amour, quelqu'un qui est dans la volonté immédiate de posséder dans l'impulsion et puis dans la folie la plus extrême. Comment est-ce qu'on s'y prend en tant que metteur en scène, justement, pour ne pas surcharger tous ces sentiments? Puisqu'on est, on ne serait, il y aurait le risque d'avoir un rex progress de la surenchère, en fait, justement, des sentiments, de l'extrême.
Non, bah, moi, je travaille souvent avec un peu de distance, d'humour et beaucoup de pudeur par rapport à tout ça. Je ne suis pas un fervent, comment dire, je n'ai pas envie de faire étalage comme ça des sentiments. C'est ce que ça peut donner, ça peut être... Comment dire, c'est mettre avec distance, avec oui, une certaine pudeur. Je leur demande d'avoir une certaine pudeur par rapport à ces sentiments, parce que c'est des choses qui sont très intimes, qu'on peut ressentir et tout ça. Après, voilà, je les traite, ils sont là, ils sont présents. Il y a des signes qui sont assez clairs. Il y a des choses qui sont, comment dire... Oui, même je pense que Tom Rockwell, au début, si on prend le point de départ, il a envie d'échapper à cet amour d'une certaine façon, puisque cette figure de Vénus renvoie aussi à enchaîner, lier, etc. Il a envie de découvrir le monde.
C'est un provincial qui va monter dans la grande ville.
Exactement, mais je pense que Anne Trulove aussi a envie d'échapper à voilà, à l'endroit où elle est avec son père, qui est plutôt cottage anglais, enfin, en tout cas dans ma mise en scène, etc., et qu'elle a envie de découvrir le monde, alors via le prisme de l'amour et tout ça. Mais on a envie de s'emparer du monde. Donc il y a aussi cette naïveté-là, d'une certaine façon, cette candeur qui fait que, oui, peut-être que Candide est un des personnages qui pourrait ressembler le plus à Tom Rockwell, mais pour finir par se dire qu'il mieux vaut cultiver son jardin, puisqu'on débarque dans un jardin, on finit à l'asile. Donc voilà. Mais non, tout ça est présent. Comment je le traite? J'ai le nez dans le guidon, j'arrête pas, je trouve des idées, je travaille. Après, c'est des signes.
Il y a l'illusion aussi, peut-être, pour donner un filtre, parce que vous parlez d'un travail à distance par rapport à l'œuvre. Est-ce qu'il y a l'illusion qui peut être aussi une certaine manière de mettre à distance justement ces émotions et ces excès-là?
Alors, c'est plus difficile avec la musique. C'est-à-dire que la musique, à un moment donné, elle imprime ou elle impose d'une certaine façon une forme de lyrisme, c'est le cas de le dire, que de temps en temps, j'y échappe pas. C'est traité dans la musique. Donc, sur cette surenchère, si on revient par rapport effectivement à ces débordements de sentiments, c'est la musique le prend en charge d'une certaine façon, dont les acteurs peuvent être tout en retenue. Puisque la musique parle pour eux, voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'essaye de travailler en gommant un tout petit peu, effectivement, un certain nombre d'attitudes et en se laissant pas embarquer. Je pense que l'humour, voilà, permet cette distance-là. C'est-à-dire, dans ce désespoir, il leur reste un peu d'humour. Que ce soit même Nick Shadow, qui est notre diable, qui est un peu drôle de personnage et qui est vraiment un diable de seconde zone. Hein. Enfin, faut bien se le dire, c'est pas du tout le Faust ou la stature du commandeur dans Don Juan, justement. Moi j'ai toujours considéré que c'était un diable un peu comme ça de pacotille, un petit charlatan qui arrivait grosso modo. Alors certes, il faut faire signer un contrat, mais voilà, il arrive à le faire, mais il n'a pas du tout l'ampleur qu'on pourrait attendre d'un diable faustien. Et puis de toute façon, l'adversaire avec lequel il est obligé à un moment donné de composer. Et somme toute, c'est tellement facile que il s'ennuie presque un peu parfois chez moi. En deux temps, trois mouvements, une histoire, etc. Ça y est, c'est bon, le tour est joué.
Et oui, parce qu'on n'est pas non plus dans le pacte avec le diable de l'histoire du soldat, œuvre de quelques décennies plus tôt de ce même Stravinsky. Effectivement, ouais. Il y a un côté plus léger, moins dramatique, plus moral ou autrement moral pour vous?
Alors la question,
c'est quelle morale,
je ne la pose jamais, puisque j'en ai absolument pas.
Au moins, c'est clair.
Non, je ne sais pas. Oui, il y a la question du rachat, surtout. Est-ce qu'il y a une forme de rédemption? Et encore une fois, c'est la folie qui va servir comme ça de rédemption, mais qui est une métaphore beaucoup plus générale sur, encore une fois, sur comment on peut s'excuser de vivre comme on vit, d'une certaine façon. Voilà. Puisque ça, après, sur la morale, sur les mœurs, il faut bien le dire, c'est 52, oui, il va au bordel, mais c'est pas quelque chose qui est... voilà. Puis c'est des plaisirs un peu tristes, c'est ce que je leur dis aussi, c'est souvent des plaisirs un peu tristes, posséder à outrance, être riche, pouvoir effectivement consommer ici ou là la chair, etc. C'est pas des désirs ou des très très heureux, quoi.
Alors ma question, c'est est-ce que ce tome vous fait pitié ou est-ce que vous prenez ça en charge pour l'adresser aux spectateurs de The Rex Progress ?
J'ai une certaine tendresse pour lui, j'avoue. Bien évidemment. Oui, c'est difficile. Il me faut un peu d'empathie quand même sur ce personnage. Après, il n'y a pas beaucoup de choses qui le sauvent, il faut bien le dire. Mais ici ou là, de temps en temps, on se dit, tiens, cette forme d'illusion, cette forme de naïveté, elle finit par nous toucher aussi. Il y a un désir de changer le monde, c'est lui qui, encore une fois, à un moment donné, il se prend pour Jésus-Christ himself, puisqu'il va multiplier les pains, les petits pains, tel Jésus-Christ, etc. Voilà, et tout de suite, Nick Jadot lui dit, non, il faut faire, c'est la modernité, donc si vous voulez multiplier les pains, il faut ouvrir une usine, quoi, grosso modo, c'est comme ça que ça marche.
C'est plus pragmatique.
Business is business, c'est beaucoup plus pragmatique, donc à chaque fois, comme ça, il fait des allers-retours. Oui, c'est un personnage qui n'arrête pas d'être dans la rupture en permanence, qui passe effectivement d'une euphorie totale à une dépression soudaine, dès qu'il a une contrariété, dès que quelque chose vient un peu le heurter, voilà, et ça s'arrête, boum, plonge dans sa mélancolie.
Vous avez parlé de la musique tout à l'heure, Mathieu Boer, en disant notamment qu'elle prenait en charge les excès. Quelle est la musique de ce Stravinsky-là et comment vous, en tant que metteur en scène, vous composez avec elle ? Qu'en fait, vous, on est loin des ballets russes, on est loin de l'histoire du soldat qui date des années 1910-1920. Là, on est dans le Stravinsky des années 1950, c'est-à-dire aussi le Stravinsky qui a vécu et le Stravinsky qui s'est déplacé la Russie d'abord, l'Europe ensuite, et là il est à la fin de sa période américaine. Comment ça se ressent et qu'en faites-vous en tant que metteur en scène ?
Bon, déjà, à titre personnel, moi je suis rentré dans le monde de la musique classique grâce à Stravinsky et les ballets, donc Petrushka, voilà, et comme tout le monde, j'étais un grand admirateur de ses œuvres du début du siècle, enfin du siècle dernier maintenant. Voilà, c'est vrai que je connaissais moins bien, j'avoue, cette période néoclassique, etc., etc. Après, c'est comment dire, moi je suis j'écoute ça avec une oreille attentive, un peu celle d'un musicien, même si ce n'est pas du tout mon univers ou ce que je joue et tout ça. Et déjà, je suis frappé par la qualité d'écriture, enfin, c'est-à-dire la capacité à un moment donné à pouvoir déployer dans ce plagiat, parce que c'est comme un exercice de style.
Oui, parce qu'en fait, il fait des références à des compositeurs précédents, et notamment à Mozart. Et il en fait beaucoup.
Oui, à Mozart. Moi, j'ai entendu Schoenberg dans le prélude, par exemple, avant le cimetière, qui est une pure splendeur. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la comédie musicale. Donc, on sent qu'ils sont joueurs et que cet exercice de style, il se déploie à plein d'endroits. Il y a des airs, il y a des arias, il y a des duos, il y a des trios, il y a des récitatifs avec clavecin. Voilà, donc tout ça, c'est comme une grammaire d'opéra, l'orthographe et la grammaire de l'opéra. Et
il embrasse toute l'histoire de la musique de l'opéra.
L'histoire de la musique de l'opéra, et il s'amuse comme un fou. Donc évidemment, pour un metteur en scène, c'est assez magnifique, hein, puisque c'est autant de portes d'entrée qui permettent, sur des ambiances tellement différentes, de pouvoir projeter, imaginer, travailler en étant soutenu par une musique absolument incroyable. Et bien, il faut bien le dire, c'est très 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 bien écrit quand même, musicalement parlant, pour l'avoir écouté depuis un an, ouais. Matin, midi et soir. Je découvre un corde et ici ou là dans l'orchestration quelque chose d'assez incroyable, particulièrement dans ce qui est peut-être une des spécialités de Stravinsky, mais dans les cuivres, les bois derrière, etc., où c'est assez saisissant. Après, moi, je ne suis pas musicologue à proprement parler, donc à avoir une lecture de musicien, je l'ai de façon très intime, intuitive, etc., avec quelques références. Mais je n'ai pas une idée très claire sur, j'ai envie de dire, d'une façon musicologique, sur tous les endroits ou toutes les références qu'il peut ramener.
Ça influence quand même votre mise en scène, que cet imaginaire-là,
il
produit.
J'ai beaucoup travaillé sur les formes de montage, moi. C'est toujours, c'était une de mes de particularités, et ça continue à l'être d'ailleurs, c'est une forme de signature qui effectivement, sur des choix très très éclectiques, même quand je fais des montages musicaux à l'intérieur de mes pièces, ça peut aller effectivement de Bartok au punk rock, donc c'est assez éclectique et assez large. Je ne dis pas que je retrouve du punk rock chez notre ami Stravinsky, mais il y a quelque chose de l'ordre du montage, du collage, mais qui était aussi sa marque de fabrique dans les ballets, hein, qui est absolument hallucinant. Rythmiquement, je suis batteur, donc il y a quelque chose qui est d'une rigueur absolument incroyable. C'est très difficile pour les chanteurs, parce que même chose, on dit néoclassique, tout ça, mais c'est pas du Mozart. Enfin, je veux dire, en termes de départ, tout est enlevé, Enfin, c'est une partition qui est beaucoup plus complexe qu'elle ne laisse transparaître. Donc oui, moi, je m'appuie sur tout ça avec plaisir, sur des choses très, très précises qui viennent accompagner la partition. Ou au contraire, parfois, je me suis même amusé, mais ça, c'est mon côté un peu joueur. C'est vrai de venir contredire, en tout cas dans la gestuelle et la prise en charge, à un moment donné, physique sur le plateau, des mouvements qui peuvent être lents où je leur demande d'être très, très, très rapides, et inversement, des mouvements très rapides où je leur demande d'être très, très, très lent, etc. Bon, voilà, c'est des petits décalages qui viennent un peu comme ça sur des endroits contredire ou entrer en friction un peu avec la musique pour pas être uniquement dans une seule direction. J'arrive pas à le faire tout le temps parce que évidemment c'est compliqué.
Et puis une dernière question sur la dimension visuelle, parce que avant cet opéra, c'était en tout cas l'inspiration première, c'était une série de tableaux d'un peintre qui s'appelle William Hogarth. Ça s'appelait justement The Rex Progress. Est-ce que vous avez été voir ce qu'était cette origine pour vous influencer justement sur la mise en scène et ce que vous donnez à voir aux spectateurs?
Non, pas vraiment. J'avais vraiment envie de l'inscrire dans les années 50. Je pense que c'est la naissance aussi.
Le tableau renvoie lui au XVIIIe siècle.
XVIIIe siècle, et la pièce se situe au XVIIIe siècle. Enfin, normalement, elle a été écrite et toute la situation, tout le contexte est celui du 18e. Moi, j'ai eu vraiment envie de l'inscrire dans les années 50 pour toutes les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire c'est aussi la naissance du marketing, de la publicité, de tout ce qui va à un moment donné comme ça, je ne sais pas, mais nous pervertir d'une certaine façon et faire qu'on va un peu s'oublier et on va répondre à nos désirs les plus immédiats. Donc ils sont là, effectivement, ils sont quelque part. Je pense qu'il y a peut-être dans le décor, il y a six tableaux, enfin il y a ce que j'appelle des modules qui sont comme six télévisions, en tout cas ça a le format des télévisions des années 60. Donc la question de l'image est présente, parce qu'évidemment il faut qu'il y ait un impact visuel pour qu'à un moment donné ça marque les esprits, mais pas à proprement parler les gravures de Hogarth qui sont évidemment... Il semblerait qu'on ait énormément influencé Stravinsky et qui lui ont donné envie d'écrire cet opéra. Même si, alors, je crois que les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'il semblerait qu'on dit qu'il aurait vu effectivement ses gravures dans un musée, mais elles n'étaient pas exposées, donc il les aurait vues plus tard. Enfin voilà, je laisse ça.
Aussi, ils font du collage, finalement. The Rex Progress, donc l'opéra de Stravinsky, sera donné à l'Opéra de Rennes du 3 au 9 mars dans votre mise en scène, Mathieu Boer, et puis ensuite à Nantes du 22 au 30 mars. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.